un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On a commencé en 2015 avec l'histoire de l'alpiniste Jean-Michel Asselin. Il découvre, alors qu'il se réveille à 6400 mètres d'altitude, sous les pentes du col nord de l'Everest, un cadavre au pied de sa tente. Et le plus étrange est qu'il reconnaît immédiatement cet homme, Maurice Wilson, mort en 1934 et ressurgi depuis à plusieurs reprises sur les pentes du plus haut sommet du monde. On a continué ensuite avec des récits d'éblouissement au sommet des montagnes. Ça, évidemment, c'était par Élise Andrieux. Et d'autres ont suivi, plus dramatiques, mais jamais complètement tragiques. L'homme aux doigts gelés récemment, des secouristes en haute altitude face à un dilemme moral et montagnard, et récemment encore un guide de haute montagne et son amie italienne piégés dans un glacier. Ça finit presque toujours bien dans nos histoires car ils sont là pour nous les raconter, mais ça n'est pas toujours le cas dans la vie. Mais c'est devenu un sous-genre des pieds sur terre à part entière, le récit d'ascension, d'aventure en haute montagne. On en a fait une petite collection, bientôt disponible en ligne. En voici donc un nouveau, plus littéraire, celui d'Aurélie, qui passe 90 heures ensevelie sous la neige, dans une cabane du domaine des Sept Lots, avec pour seule compagnie un livre de Romain Gary, par Claudia Prolongeon.
Je m'appelle Aurélie Dutertre, j'ai 47 ans et j'habite à Grenoble.
Je suis kiné et ostéopathe.
Je suis en couple et j'ai deux enfants,
de 13 et 15 ans.
J'ai toujours été très sportive. Je fais de la montagne depuis environ 18 ans. J'aime beaucoup le ski de randonnée. Donc, le ski de randonnée, c'est... tu as des peaux de phoque que tu colles en dessous de tes skis. Et ton objectif, c'est souvent de faire du dénivelé, c'est-à-dire gravir un sommet tout à fait raisonnable dans les massifs qui entourent ta région. Moi, j'aime beaucoup le sport d'endurance. J'aime beaucoup l'effort de montée. Me donner un objectif, arriver à cet objectif et puis ensuite de faire une redescente. Alors moi, je skie très tranquillement. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va aller chercher du degré de pente. Moi, c'est souvent des choses tout à fait accessibles, jamais des choses très compliquées. En avril 2023, je décide de partir faire une randonnée à ski sur 3 jours. Je prépare ma randonnée, j'emmène tout le matériel nécessaire pour pouvoir être en autonomie pendant 3 jours. C'est-à-dire ma sonde, j'emmène ma pelle, mon GPS, mon téléphone avec ma carte IGN. Et puis je me fais géolocaliser aussi par mon compagnon. J'emmène de quoi pouvoir bivouaquer, donc sachant que je vais être dans un abri, j'emmène un sac de couchage de très bonne qualité qui descend à moins 30, des repas lyophilisés, j'emmène des fruits secs, mon réchaud avec un briquet, j'emmène une couverture de survie, ça pareil, indispensable. Quand tu pars en montagne, c'est quand même des terrains qui parfois peuvent être un peu hostiles, mais des risques, il y en a partout dans la vie. Et si tu es bien équipé, si tu as bien fait ton itinéraire, normalement, on sait où tu es si tu as la géolocalisation. Il n'y a pas de raison qu'il t'arrive quelque chose. Donc je pars le mercredi matin. J'avais regardé le bulletin météo et j'avais vu que c'était pas formidable sur la journée du jeudi, même qu'ils annonçaient quand même la tempête. Et le vendredi matin, où il y avait un créneau de beau temps, c'est ce que j'avais observé. Je me suis dit, je vais monter au pic de la Belle Étoile sur la journée de mercredi. Et ensuite, je voulais redescendre en direction donc de la cabane Jean Coutaz. C'est le seul endroit qui est ouvert sur le domaine des Sept Lots. Mon idée, c'était de rester la nuit du mercredi soir. Le jeudi, je savais que c'était mauvais temps, de redormir donc dans cet abri le jeudi soir et de repartir vendredi matin
pour finir ma course au refuge du Combe-Madame, puisque mon mari était censé me rejoindre le vendredi soir. Donc j'arrive en haut du pic de la Belle Étoile, je regarde le temps et je me dis, bon, ça va, le plafond est haut, c'est pas en train de se couvrir, ça va, j'ai largement le temps pour descendre. Et là, ce qui m'a pris du temps, c'est à la descente, parce que la neige était très humide vers le bas de la descente, et du coup, j'avais du mal à skier là-dedans, donc je me suis beaucoup fatiguée à pousser avec les bâtons, enfin voilà, c'était de la neige très chargée d'eau. Donc je descends, c'est laborieux, je traverse le lac, et là, je commence à voir que le temps, quand même, commence à se charger, à devenir plus lourd. Donc je me dis, bon là, il est vraiment temps que tu trouves cette petite cabane qui était censée être ouverte. Bon. J'arrive péniblement à trouver mon petit abri, mais soulagée de le trouver. Là, j'étais stressée. Quand le temps commence à se couvrir, que la visibilité est moins bonne, que tu es tout seul, qu'il n'y a pas de réseau, que le temps commence à se couvrir plus vite que prévu et que tu es fatiguée parce que tu viens quand même te faire 1007 de dénive, tu te dis, il est temps quand même que je trouve un abri. Bon. Donc, je trouve l'abri, donc hyper fière de moi, il faut le dire, en me disant, bon, super, t'es sauvée, ma cocotte. Tu vas pouvoir être à l'abri ce soir, comme tu avais prévu. Bon, normalement, un refuge, tu as des matelas qui sont laissés là tout l'hiver. Tu as une table en bois, en général. Et puis, il y a souvent soit un poêle, soit une cheminée. Et souvent, très souvent, il y a des bûches qui sont laissées à disposition des randonneurs. Puis, c'est là où se retrouvent d'autres randonneurs. Voilà, on échange, on partage un morceau de pain, un petit génépi. C'est toujours des endroits très, très bien. En fait, là où j'ai été déçue, c'est que c'était pas ce que je m'attendais. C'est-à-dire que, c'était sale. C'était tout petit et je pouvais pas me tenir debout dedans. C'était pas vraiment une cabane, c'était un petit abri quoi, de fortune, à peu près 1,20 m de haut sur une surface au sol de 5 m². Et puis c'était tout mouillé à l'intérieur, enfin tout humide parce que il y avait quand même de la neige qui était rentrée, je pense, les jours précédents. C'est de la terre battue, hein, donc ça tient l'humidité. Il n'y a pas de fenêtre, il y a un toit en pente. Donc en fait, tu te tiens plié en deux sur la partie haute, mais sur la partie basse, tu peux juste être allongé en fait. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est déjà ça. Tu vas être à l'abri ce soir, c'est super. Du moment que j'ai quelque chose pour me protéger de la tempête, c'est parfait. J'ai mon réchaud, mon sac de couchage. On va attendre que le temps, le mauvais temps passe et puis on avisera par la suite. Donc je me fais mon petit repas, tout ça. Et je me dis, bon, c'est mal déneigé devant quand même. Je vais ressortir déneigé, surtout que ce soir, il y a un avis de tempête. Le mauvais temps commence à arriver, mais bon, je déneige, je ferme la porte. Je me dis, là, je vais me poser 2 heures. Et puis, je ressortirai quand même encore déneigé, parce que là, ça pose, quoi. Déjà, j'étais surprise de voir, autant de neige, on était quand même mi-avril. Donc je me dis, de toute façon, je me réveillerai et je redéneigerai de nouveau. Et en effet, je me réveille à peu près 2 heures et demie après. Et je me rends compte que la porte de l'abri est condamnée. Une porte qui a été montée à l'envers et qui s'ouvre vers l'extérieur. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y ait une congère qui se mette devant la porte. Un amas de neige entassé par le vent. Alors au début, t'arrives quand même un petit peu à pousser la porte. T'as, je sais pas, 2-3 cm, donc tu te dis, bon, allez, je vais pousser fort, ça va le faire. C'est pas possible que là, la porte, elle soit bloquée, quoi. Surtout que d'un coup, ça va vite, hein, dans la tête. Tu te dis, là, j'ai pas de réseau. J'ai heureusement anticipé en mettant un petit peu de neige à l'intérieur de la cabane tout à l'heure. En réfléchissant au matin, en me disant, comme ça t'évitera de sortir dehors et puis tu pourras te faire ton petit café à l'abri. Bon, ça fait de l'eau, voilà, bon. La porte est bloquée, bien bloquée même. Je vois que sur le haut de la porte, en fait, il y a encore un peu de jeu. Je me dis, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, prends un ski, fais levier avec ton ski, j'essaye. Ça marche pas. J'essaye avec la pelle à neige de forcer, comme rien. Je me mets sur les fesses, je pousse avec les jambes de toutes mes forces, mes chaussures de ski, je pousse de toutes les forces, je tape, je bourrine, rien qui bouge. Bon, au bout d'un moment, de toute façon, tu t'épuises un peu tout seul. Il faut que je me pose, il faut que je redescende, parce que ça sert à rien de se mettre dans un état de stress comme ça, ça va pas faire avancer les choses. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en pleine nuit, j'ai plus de batterie de téléphone, tu te dis waouh. Donc là, je suis dans un tout petit espace, je peux plus sortir, et puis en plus, il y a de la moquette partout rouge, comme dans un cercueil. Et puis le froid, tu risques de t'endormir. Bah écoute, tu vas t'endormir comme la belle au bois dormant. Puis on te retrouvera toute bleue. J'y ai pensé à ça. Hein. Le seul objet qui finalement me fait penser à autre chose, c'est le livre que j'ai, La vie devant soi, un roman de Romain Gary. Heureusement que j'ai ça. Parce que quand t'es dans le noir complet, parce que t'as un tout petit peu de jour du haut de la porte, mais il n'y a pas de fenêtre. Le temps est long. Du coup, j'étais enfermée le mercredi dans la nuit et je pense que j'ai dû redormir encore un petit peu après et me réveiller en me disant « Bon, c'est peut-être le matin, je sais pas trop. Oh bah tiens, je vais me faire à manger, j'ai faim. » Donc tu perds très très vite la notion du temps, ça c'est sûr. Je me suis dit, il faut que je regarde la structure. J'ai eu une mère qui avait toujours cette expression-là, structure. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée en fait. Chaque chose que je faisais était réfléchie et pour moi structurée. Il faut que chaque chose soit bien faite. C'est-à-dire, faut penser à l'hygiène, parce que c'est tout petit. Typiquement pour faire ses besoins, il n'y a pas de toilette, hein, donc c'est un tout petit espace. Voilà, il faut réserver un espace à ça. Il faut un espace pour faire chauffer ton repas. Tu ne vas pas faire ça à côté des toilettes. Un espace dodo, un espace un peu coucoun. Alors il faut savoir que là, il n'y en avait pas vraiment puisque le sol était complètement détrempé. Il y avait l'équivalent de 5 par 2, à peu près, mètres carrés qui étaient secs. Ben ça, c'est vachement important. Donc ça, il faut bien le conserver. Les affaires étaient mouillées. Sécher les affaires, c'était très compliqué. Pourtant, j'avais un sac de couchage qui tient la route, mais en fait, l'humidité, ça prend tout. J'ai dormi avec les vêtements mouillés. T'essayes de les sécher avec ta chaleur corporelle, en fait. Mais quand ton sac de couchage est lui-même humide et que l'environnement est humide, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui sèche. Plus que l'humidité, c'était le froid. J'étais à 2100 mètres d'altitude et même si tu es dans un petit abri, les murs sont en pierre, le sol c'est de la terre battue et dehors il y a du vent. Donc il y a toujours du vent qui va passer par les petits trous. Au début, parce qu'après... au fur et à mesure des jours, tu sens plus le vent, puisque après t'es recouvert par la neige. Mais au début, tu sens le vent. Donc, t'as froid, t'as peur, parce que dehors, il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est très, très impressionnant, en fait. La tempête, c'est très impressionnant. Ça a l'air solide, il y a des murs en pierre, il y a un toit en tôle. Mais par moments, je me suis dit, ça se trouve, tout va s'arracher. Enfin, j'ai eu des idées comme ça, je savais pas trop, quoi. C'est comme des hurlements, quoi. C'est glauque, hein. Enfin, j'avais des fourrures nerveuses en me disant, mais c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, coincé là, dans cet endroit qui va t'amener peut-être à ta mort, quoi. Tu peux pas crier, tu peux pas appeler de l'aide, t'es impuissant. Tu peux très bien perdre les pédales ou c'est difficile de trouver du réconfort. Donc tu trouves dans des petites choses. Tu dis, là je vais me prendre un petit fruit sec. Je vais me faire une petite boisson chaude. Je vais lire quelques pages de mon livre. J'étais hyper concentrée sur ce que je lisais. Je me souviens vraiment bien de l'histoire. C'était une histoire entre deux êtres humains qui vivent une histoire forte, presque d'amour, de manière atypique. Et du coup, tu t'attaches au personnage. Le petit Momo qui vit chez Rosa. Quand j'étais dans l'appartement de Rosa, j'étais avec eux, en fait. Hein. De toute façon, ça sert à rien de tout casser, ça sert à rien de se taper la tête contre les murs. Alors, il y a eu un moment où, oui, j'ai pleuré pendant une heure, je pense. Puis après, je me suis dit, en plus, tu te vides de ton eau, ça sert à rien, t'es en train de te déshydrater, t'as déjà pas beaucoup de flotte. Après, à un moment, j'ai hurlé aussi, je pense. Puis après, t'attends que le temps passe. Hein. De toute façon, t'es accroupi, soit t'es allongé. Donc voilà. En plus, j'ai eu mes règles. Alors d'un côté, ça m'a un peu rassurée, parce que je me suis dit, ton corps fonctionne toujours. Je me suis dit, tiens, si t'as tes règles, c'est que t'es pas en train de complètement disjoncter. Enfin, peut-être que c'est un raccourci, un médecin me dirait, vous racontez n'importe quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai pensé comme ça. Tu peux pas te laver les parties intimes, tu peux pas te laver tout court, tu peux pas te brosser les cheveux, tu peux pas te laver les dents. Et au bout d'un moment, quand t'as pas tes pieds de toilette, parce que ça, j'avais pas pris. Hein. Heureusement qu'il y avait un livre, un vieux livre qui était là. Non mais désolé, c'est vrai quoi. Ça m'a servi de serviette hygiénique, les feuilles. Des trucs, voilà quoi. En plus, il faut savoir quand même que quand c'est la tempête. C'est assez difficile quand t'as juste un petit peu de jour au-dessus de la porte de savoir si c'est le jour ou la nuit. Mais c'est marrant comment fonctionne le cerveau aussi. C'est par moment t'as la petite ampoule là qui s'allume et tu dis mais sur mon GPS je dois avoir l'heure. Je pense que je m'en suis rendu compte le jeudi en fin d'après-midi. Après, j'étais très calée. Hein. Le vendredi matin, il a fait beau d'ailleurs. Je me souviens très bien du lever du soleil. Je crois qu'il se levait à 7h. Je me souviens très très bien parce que j'ai vu un avion passer. J'ai quand même entreaperçu dans le ciel la traînée d'un avion en me disant « Punaise, eux, ils doivent partir en vacances, les salauds !» Tu t'en veux énormément, en fait, parce que tu te dis « Là, les gens s'inquiètent pour toi, tu peux pas les prévenir. » Mon mari, il avait plus de nouvelles de moi, alors que, il avait normalement mon tracé. On s'était mis en géologue. Du coup, il pouvait suivre tout mon tracé. Il savait exactement où j'étais. Ce qu'on savait qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de réseau. Mais ça donne quand même une zone. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aux secouristes de savoir à peu près où j'étais. Donc, moi, quand j'étais dans mon abri, je me disais, pourquoi on vient pas me chercher? On sait où je suis. Le vendredi matin, j'ai entendu un hélicoptère. Ouais, génial, il y a un hélico. Alors, en fait, faut qu'il y ait quelque chose pour me signaler que je suis là, quoi. Donc, une sonde, c'est quand même assez long. Je me dis, il faut quand même qu'au bout de la sonde, il y ait quelque chose pour qu'on me voie de l'extérieur. Donc, je passe cette sonde, je force quand même sur l'espace entre la porte et le haut du faîtage du toit. Je passe la sonde avec le... J'avais mis un repas lyophilisé que j'avais mangé au bout. Je m'entends l'hélico, mais qui passe vraiment au-dessus, quoi. Là, je me dis, mais pourquoi les mecs, ils sont pas là, quoi? L'hélicoptère disparaît, le mauvais temps revient. Donc là, re-stress. Il faut repasser encore une nuit là. Et là, de nouveau, la tempête. Hein, j'entends, je sens que ça souffle fort. Je me rends compte que la sonde a été ensevelie. Donc la rebaisse de morale, parce que du coup, on ne me voit plus d'extérieur. Il faut quand même que je trouve un moyen pour pouvoir être vue. On verra ça demain. Le samedi matin, la neige avait quasiment recouvert toute la cabane. Et en fait, là où j'ai eu un peu de chance, c'est que le jour de la porte, qui est sur un tiers qui est protégé par le toit de la cabane d'à côté, quoi. Heureusement. Parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est là où il n'y a pas du tout de neige qui s'est accumulée. Il y a un petit espace de lumière au niveau du haut de la porte qui est sur 1 cm sur 5 cm, qui est très très important, et que régulièrement avec mon bâton, je gratte, parce que ça me permet de voir le temps qu'il fait à l'extérieur, et qui me permet aussi de remettre un signe extérieur, c'est-à-dire mon bâton de ski que je peux reglisser. Alors là, j'ai quand même peiné à reglisser le bâton de ski par cet interstice-là. Et j'ai mis au bout un morceau de couverture de survie pour pouvoir être vu de l'extérieur. Après aussi, j'ai dû mettre le matelas trempé devant la porte parce qu'en fait, j'avais extrêmement froid. Il y avait tout le temps de l'air qui arrivait quand même à passer sûrement par des petits trous qui n'étaient pas visibles. Du coup, il y avait une bâche qui était dans cet abri-là et je me suis fait une tente. Et ça a été très bénéfique parce que, en fait, c'était un petit espace. Ça a réchauffé un petit peu. Et du coup, sur la quatrième nuit, mes vêtements étaient beaucoup moins humides. Et j'ai regardé au plafond. Je me suis dit, en fait, la moquette, là, elle va me servir à faire un isolant. J'ai arraché mes bouts de moquette comme une furie, quoi. J'étais déterminée. Sauf que ça s'arrachait pas si facilement que ça. T'as beau avoir une force incommensurable quand t'es dans un instinct de survie, hein, tu te découvres des réactions démesurées. Et du coup, j'arrachais le truc. Comme une dingue, je tirais sur le truc. On aurait dit sûrement une folle s'ils avaient été filmés. Bon, enfin bref, j'ai réussi à arracher mes bouts de moquette. J'étais bien contente de moi. La quatrième nuit, du coup, celle entre le samedi et dimanche, j'étais plutôt confort. Donc je dors à peu près convenablement le samedi. Je me réveille, je regarde mon GPS. Je faisais très attention, hein, je l'éteignais, je l'allumais pour pas utiliser les piles. J'ai fait très attention en fait à mettre ma frontale sous mes aisselles parce qu'en fait, elle s'est déchargée avec le froid. Donc très très rapidement, dès la première nuit en fait, le premier jeu de piles ne marchait plus. Après, ça a tenu jusqu'au dernier moment, mais ça, c'est très important, hein, d'avoir une lumière, c'est très important. Hein. Et donc, le dimanche matin, donc je me réveille. Alors, je me souviens, j'avais pas trop le moral quand même. Je regarde dehors, par mon tout petit trou, là, et je vois qu'il y a des étoiles. Je me dis, super, ça va être une belle journée. On est dimanche, les secouristes, il va faire beau, ils vont venir, c'est nickel. Et bien, une heure après, le jour se lève, jour blanc. Jour blanc, c'est quand tu es en montagne et que tu ne vois absolument rien. C'est-à-dire que tu peux voir un mètre devant toi, mais des fois, tu vois vraiment rien du tout, quoi. Du coup, aucune visie. Voilà, le moral, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Là, ils savent quand même que tu as disparu, puisque c'est dimanche matin. Il y a toujours personne qui est là. Là, ça commence quand même à craindre un petit peu. Et j'entends l'hélico qui tourne. Donc je m'occupe, je pleure, je regarde l'heure, 9h, 10h, ils sont toujours pas là. Je comprends qu'ils se barrent. Je cours vers la couverture de survie, j'arrache un petit bout encore de cette précieuse couverture de survie qui heureusement était là. Je passe dans mon tout petit trou là, et là, ça s'envole. Ils l'ont vu. C'est le pilote de l'hélico, en fait, qui l'a vu. Donc, je ne sais pas comment il a vu ce petit morceau, parce que c'était franchement pas grand. Et là, je les ai entendus. Tu sens que là, les mecs qui sont libérés, ils disent « Elle est là !» Donc je les entends dire, les gars, il y a 2 mètres de neige là, va falloir y aller. Et il y en a un des deux qui dit, mais il y a un abri là. Et en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait un petit abri à cet endroit-là. Donc ça aurait pu durer encore un petit peu longtemps. Donc voilà, il déneige. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le regard du secouriste dans la lumière de la porte. Là, c'était une présence humaine, quoi. C'était du concret, c'était du réel. Et puis quand ils ont ouvert la porte, waouh! C'est la libération, quoi. Enfin, merci. Ça y est, je peux sortir, quoi. Il y avait même un chien qui était là. Du coup, le chien te fait fête. Enfin, tu reviens à la vie, quoi. Tu reviens à la civilisation. T'es hyper heureux. Tout le monde pleure. Non, vraiment, c'était fort, hein. Mais ils me disent, écoute, là, faut se dépêcher parce que le temps est vraiment très mauvais et on va pas pouvoir te ramener en hélicoptère. Est-ce que t'es capable de skier? Ouais. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Faut y aller, hein. Donc voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour descendre tranquillement. Il fallait quand même se presser, mais là, moi, j'aurais descendu l'Everest en courant. Hein. J'étais parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ah là, mais ça devait être dur physiquement quand même, après 90 heures, un machin, de descendre en ski. Ah non, j'étais... C'est après, en fait, que tu t'écroules. Mais là, là, t'es plein d'adrénaline. Tu sais que tu vas retrouver ta famille, tes enfants. Ça n'a pas de prix, ça, hein. Du coup, je rentre à la maison et là, il y a mon fils qui m'accueille en me disant « Maman, tu sens mauvais ». Voilà. On retrouve la vie normale. Maintenant, je continue à partir. Hein. Je veux dire, ça ne m'empêche pas de continuer à faire de la montagne, même encore toute seule. Je ne repartirai plus 3 jours toute seule. Par contre, à la journée et dans des endroits qui sont plus fréquentés. La plupart des gens te disent... Ah non, mais moi, je me serais effondrée. Ah, mais moi, je me serais laissée mourir. Je suis très surprise, en fait, d'entendre ça. Pour moi, l'instinct de survie, c'est quelque chose que tu as en toi. Je reste persuadée qu'en fait, on devrait tous vivre un truc comme ça dans notre vie, au moins une fois. Parce qu'en fait, ça te donne une bonne notion de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu te dis... Ça va, t'es solide.
Words like violence break the silence, coming crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand?
C'était 90 heures sous la neige avec Romain Gary, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Éric Lancien. Merci à Aurélie Duterte, bien sûr, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.